Good Morning Business, le grand débat.
Il est 8h36, le grand débat avec trois titres principaux ce matin. Et nos invités d'abord que je présente, Jean-Philippe Cartier, et bien le chip que je ne présente plus. On est heureux d'accueillir Mike Adjage, fondateur de I Love Retail et de la Retail Tech. Merci à tous les trois. On commence par Renault-Nissan parce qu'il y a beaucoup d'infos. Ça vient de tomber à l'instant et il y a quand même quelques surprises sur cette nouvelle alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Un mariage, ils en prennent pour 15 ans. Ils annoncent que c'est au minimum 15 ans. Et puis, eh ben, on découvre que Mitsubishi va aussi investir dans Ampère, la nouvelle filiale électrique de Renault. On retrouve en direct de Londres Justine Vasson qui a toutes ces infos pour nous.
Oui, en effet, Christophe, vous l'avez dit, le communiqué vient tout juste de tomber. Alors, sans surprise, c'est ce qu'on attendait. Renault et Nissan annoncent donc un rééquilibrage de leur participation aux croisés. Chaque entreprise va maintenant détenir 15% du capital de l'autre. Et ça, c'est bloqué pour 15 ans. Il y aura évidemment des droits de vote associés. Renault et Nissan annoncent aussi un avenir en commun. Nissan va investir dans Ampère. On le savait, la future entité 100% électrique de Renault jusqu'à 15%, nous dit le communiqué, mais on ne sait pas si ce sera effectivement 15%, ça n'est pas tranché. Mitsubishi, vous l'avez dit, et ça c'est nouveau, va également investir dans Ampère, mais on ne sait pas à quel montant de participation. Renault et Nissan vont également travailler ensemble sur différents marchés. En Inde, Renault et Nissan vont produire ensemble de nouvelles voitures, des nouveaux SUV notamment. En Amérique latine, les deux constructeurs annoncent 4 projets. Ils vont notamment développer un nouveau pick-up en Argentine. Renault va également fabriquer un nouveau modèle dans une usine de Nissan au Mexique. C'est ça, la collaboration entre les deux entreprises. Cela faisait 20 ans que Renault n'avait pas produit de véhicules au Mexique. Ces projets pourraient rapporter des centaines de millions, voire des milliards d'euros par an pour chaque entreprise. C'est ce que nous a expliqué une source proche du dossier. Voilà, on en saura certainement encore un petit peu plus dans une heure maintenant avec le début de cette conférence de presse très attendue.
Et Luca De Meo sera notre invité demain matin à 8h10. Le patron de Renault a choisi Good Morning Business pour détailler cet accord effectivement avec Nissan et Mitsubishi.
Bon, Emmanuel Le Chiffre, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'enfin on a les conditions d'un développement pour Renault, pour un Nissan dans un autre cas?
Oui, ce qui est encourageant et rassurant, c'est que tout ce qui vient d'être annoncé, c'était les conditions nécessaires à la survie de Renault. Le rééquilibrage actionnarial, il était évidemment nécessaire, puisqu'il y avait trop de déséquilibre. Rappelez-vous, finalement, Renault possédait 43% de Nissan. Nissan n'avait que 15% de Renault sans droit de vote. Ça a été fait à une époque où, effectivement, Renault a un peu sorti Nissan du caniveau. Mais tout ça est terminé. Maintenant, Nissan est beaucoup plus gros. Et donc, c'était impossible d'envisager le moindre projet dans cette défiance actionnariale vis-à-vis des Japonais. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, aujourd'hui, on voit bien que si vous n'êtes pas très gros, vous n'avez aucune chance de réunir les conditions pour produire des voitures compétitives. C'est-à-dire que tous les investissements que vous devez faire, les volumes que vous devez sortir, font qu'il n'y a que les plus gros qui s'en sortiront. Là, on a affaire avec Renault, Nissan, Mitsubishi au troisième constructeur mondial. Donc ça aussi, c'est plutôt encourageant. La logique de projet, elle est assez intéressante aussi, avec finalement ces investissements ponctuels, croisés, où chacun vient compléter l'autre.
Les
en logique de marché, c'est intéressant aussi.
La gamme C aussi pour la voiture électrique, projet commun Renault-Nissan.
Absolument, je trouve que là, du coup, la présence à la fois sur l'ampleur de la gamme et sur l'ampleur de la planète est intéressante. Après, on l'a dit, ce sont des conditions nécessaires, mais est-ce que c'est des conditions suffisantes? On verra.
Jean-Philippe Cartier.
Non, je rebondis sur ce que dit Emmanuel. Ce qui est certain, c'est que c'est pas un divorce, puisque jusqu'à hier, des gens disaient c'est peut-être le début d'un divorce en fait caché.
Ouais, ouais.
C'est une très bonne nouvelle. Je pense que cette association.
C'était moins une. Ils ont bien.
C'était moins une.
On
je pense
content,
que Bercy l'a souhaité également.
Ça n'a pas l'air facile, parce que les mots utilisés de joie, de sérénité retrouvée. Quand non,
mais ça aurait dû même se signer plus tôt. Je crois que ça devait être anticipé au mois de novembre. C'est arrivé aujourd'hui. Je pense que c'est très bon. Il faut une taille mondiale. Il faut une taille critique mondiale. Je pense que cette association qui était colossale, qu'on a fait le numéro 1 devait se remettre. Donc ça ne pouvait pas être pire. Donc c'est une bonne nouvelle, je pense, pour Renault, pour Nissan et pour la France.
Au jour le jour, ils arrivent à collaborer, à mener à bien ces projets de coopération sur les différents segments, sur les différents marchés géographiques.
Oui, mais en général, sur des logiques de projet, c'est plus simple de faire travailler des équipes que quand vous considérez que vous n'avez qu'une seule entreprise et que, en gros, vous vous retrouvez avec des doublons, etc., où c'est quand même beaucoup plus compliqué.
Et le déséquilibre actionnarial crée beaucoup de frustration quand même. Et de remettre à plat l'actionnariat, je pense que c'était nécessaire et obligatoire.
Bon, on retrouvera Justine Fassogne toute la journée pour suivre évidemment ce dossier depuis Londres. Et puis Luca De Meo, bien sûr, demain à 8h15. Autre sujet, retail, les enseignes de prêt-à-porter qui tombent comme des mouches, Camailleux, Koukaï, San Marina, Pimki, Cop Copine, CEA, ça s'enchaîne. Est-ce qu'on va arriver, Mike Adage, à plus avoir aucune marque de prêt-à-porter des années 90. On va voir ça, vous allez me répondre dans un instant. Juste avant, on va réécouter notre invité qui était avec nous tout à l'heure à 7h20 et qui était Emmanuel Leroc, qui est le délégué général de Procos.
La baisse de fréquentation n'a pas commencé avec la Covid. On mesurait à peu près 4-5% par an de baisse de fréquentation, qui est liée à un nouveau comportement par rapport au fait de se déplacer en magasin. Avant, on allait flâner, on achetait par impulsion. Aujourd'hui, on sait ce qu'on va acheter et on se déplace moins souvent. Mais aujourd'hui, on mesure même, nous, 19% de baisse par rapport à 2019. En fait, ça, la Covid a recréé un nouvel effet cliquet par rapport à ça. Et donc, les gens vont moins souvent. Quand ils se déplacent, ils achètent plus. Mais par contre, du coup, il faut d'abord pas louper les consommateurs, et comme vous le dites très justement, il faut avoir une offre qui correspond à ce qu'ils attendent. Donc c'est un cumul de difficultés.
Mike Adjage, est-ce que c'est qui le prochain après Camailleux, Koukaï, San Marina, Pimki, Cop Copine cette nuit? Ça va s'arrêter où, cette hémorragie, cette disparition de marques qui fleurent bon les années 90?
On aimerait bien que ça s'arrête. Le problème est réellement périmétré sur des marques moyenne gamme. Vous avez le luxe qui se porte très bien, et vous avez ces marques, vous avez du bas prix type Gémeaux, Kiabi, etc., qui s'en sortent également très bien. Maintenant, au milieu de gamme, ça souffre énormément. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de concurrence, parce que c'est des marques qui ont souffert pendant la crise Covid et financièrement, et qui ont eu du mal et qui sont encore sur cette traîne-là. Ce sont des achats qui sont moins prioritaires pour les Français. En période de baisse de pouvoir d'achat, on a sorti une étude récemment, c'est le premier secteur de dépenses sur lesquels les Français rognent.
Ah oui.
La mode et l'habillement, 60% disent c'est déjà là que je vais baisser mes dépenses.
Parce que c'est moins vital, on peut ouvrir ses placards et faire un peu c'est le prix vital, et réutiliser des vêtements.
Oui, vous avez une concurrence qui est extrêmement forte. Ce sont des marques qui étaient en retard sur l'e-commerce. Alors pendant la période Covid, ils se sont un petit peu remis à faire du click and collect, etc. Mais ils sont en retard. Et puis un problème de service en magasin. Donc on a une promesse qui est très difficile, parce que c'est une promesse qui est milieu de gamme, qui n'est pas incarné. Il y a des marques qui s'en sortent, il y a des marques qui renaissent, et tant mieux. Et pour ça, il faut avoir un positionnement extrêmement clair, savoir où on a, tenir une promesse en magasin, la promesse de conseil, la promesse de stock, elle est importante. Tenir une promesse de prix, vous avez une hausse des matières premières qui est phénoménale, enfin on est entre 40 et 90% de hausse, il faut arriver à tenir cette
promesse. Plus 100% pour le coton.
Plus 100% pour le coton, et le coton bio, alors là, on n'en parle même pas. Donc, il faut arriver à tenir cette promesse tout en fournissant des services aux consommateurs qui vont l'aider, comme disait Emmanuel, en effet, à venir en magasin, mais aussi à aller sur Internet avec ce qu'on appelle du commerce unifié, c'est-à-dire ces liens qu'on peut faire entre je fais mon choix, je vais chercher en magasin, j'ai du click and collect, etc. Et ça devrait aider des marques qui vont investir, elles doivent investir à mieux se porter.
Jean-Philippe Cartier.
Juste un avis là-dessus, parce que vous le savez, j'investis dans pas mal de secteurs, autant dans la fintech que dans la suretech, et dernièrement, on a co-fondé une marque de prêt-à-porter 100% digital, qui s'appelle CQFD, qui est pour femmes et qui va être pour hommes, qui est sur un modèle un peu basé sur la précommande, et je pense qu'il y a une premiumisation, et vous le disiez à très juste titre, et il y a surtout une manière de travailler différemment. Nous, on crée des produits, enfin, je suis pas le fondateur, je suis actionnaire, mais on crée des produits à la demande, sur commande, très premium. Je pense que les gens ont envie de consommer différemment. Moi, je conseille de... Vous le disiez avec vos placards, on veut tous le beau produit, mais en garder un et le garder plutôt à vie que d'acheter des tas de trucs qui sont produits n'importe où, qui viennent du bout du monde. Et dans la conscience sociétale, écologique qu'est la nôtre, il y a une refonte qui doit se faire de ce marché. Donc, moi, j'ai investi dans ce secteur, j'y crois beaucoup. Il y a un modèle qui s'appelle Asphalt, vous avez peut-être entendu parler, qui se débrouille très bien, qui a démarré avec pas grand-chose, et qu'aujourd'hui a fait une belle levée de fonds. J'ai le dossier sur le bureau.
Parce qu'on reçoit beaucoup sur ce plateau de marques qui font de la précommande, c'est-à-dire que ça permet d'avoir zéro stock.
Ben, ça permet de produire, de créer, de prendre le temps de créer un produit de très qualitatif. En l'occurrence, c'est ce qu'on fait chez CQFD. Une fois qu'on a créé ce produit, de le proposer à la clientèle dans des bureaux. On n'a pas de stock, on n'a pas de, et on commande en fonction du nombre.
Pas de boutique.
Nous, on a fait un pull très haut de gamme dans des ateliers italiens. On produit en France et en Italie. On en a vendu 140 pour le premier, pour un pull à 620 euros très haut de gamme, ben c'est quand même pas mal. On est sur la premiumisation.
Est-ce qu'on peut acheter des pantalons sans avoir à les essayer?
On peut acheter des pantalons sans avoir à les essayer, oui, mais en l'occurrence,
et tu peux les revoyer.
Il y aura des évolutions type showroom, tous ces lieux-là devront après avoir un petit endroit pour peut-être recevoir le client, mais je pense que le système dans sa globalité, en termes de consommateurs et en termes d'acquisition de produits, est en train d'évoluer. Sauf nous, on y croit beaucoup.
Ça ne règle pas le problème des vacances de centre-ville et de tous ces commerces qui vont laisser quand même des boutiques vides, parce que vous n'avez pas de boutique avec vos plus de 600 euros.
Mais c'est une évolution du marché profond.
Alors, je suis d'accord qu'il y a effectivement, on a affaire à des entreprises qui étaient quand même particulièrement fragiles et vulnérables, mais sur une ambiance, sur un fond beaucoup plus dur quand même. Hein. Rappelons quand même l'augmentation des loyers, 1,3 fois plus rapide que celle du chiffre d'affaires. N'oublions pas que beaucoup d'enseignes ont quand même dû payer les loyers finalement pendant la crise sanitaire, alors que les magasins étaient vides. Donc il y a un effet zombie, si vous voulez. Hein. Là-dedans, il y a des entreprises qui auraient peut-être dû finalement défaillir plus tôt, qui ont été portées à bout de bras pendant la crise sanitaire. Donc ça, c'est un peu le business as usual. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des conditions qui sont très difficiles. Et puis, je pense qu'il y a aussi les goûts des consommateurs qui ont changé. Vous avez dans vos placards, tous, mesdames et messieurs, à peu près 120 ans de vêtements pour vous habiller. C'est-à-dire qu'en gros, si vous n'achetez plus rien à partir d'aujourd'hui, et que vous usez tous les vêtements que vous avez dans vos placards...
Moi, je pense que je peux tenir deux ou trois siècles.
Voilà, c'est ça.
Vous n'avez pas une pour rester à la mode, c'est pas évident.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est en train de changer. Et puis, le mode de consommation, c'est exactement comme l'alimentaire. Il y a des gens qui sont capables de manger un jambon beurre le midi et d'aller dans un 2 ou 3 étoiles le soir. Et là, les vêtements, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va, les gens sont prêts à acheter, à se battre pour gagner 2 euros sur un t-shirt acheté venu de Chine chez Decathlon ou Intersport. Et par contre, après, ils vont vouloir se payer un beau manteau ou...
Les gens veulent acheter mieux et moins. Voilà. Moins mais mieux, ça j'en suis intimement convaincu. Et...
Jean-Philippe Cartier, il se passe un peu la même chose dans la restauration, parce qu'on a parlé de Flo, qui va être sorti de la bourse, de la cote, par le groupe Bertrand. Flo, qui a un peu le même syndrome que ces marques du retail.
Vous avez tout à fait raison, j'allais vous répondre. Nous, sur nos assets comme Coco, comme Loulou, les chiffres sont absolument exceptionnels. On est dans des marques premium, et ça fonctionne très bien. Et le moyen de gamme en restauration souffre beaucoup plus. Donc,
en fait,
je crois qu'il faut premiumiser.
Soit dépenser beaucoup au restaurant pour se faire vraiment plaisir,
soit faire très simple. Pas cher. C'est ce que vous disiez à très juste titre dans l'habillement.
On a un vrai problème de milieu de gamme.
Ça se polarise.
Oui, ça se polarise, c'est évident.
C'est intéressant dans la restauration,
parce que
c'est comme dans l'habillement.
Hein. La classe moyenne n'existe plus non plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la période de l'individualisation des goûts et des envies. Donc, vous fréquentez plus un seul type de gamme, en fait. Et quel que soit votre niveau social et quel que soit votre milieu. C'est-à-dire que vous voyez des gens extrêmement modestes qui vont mettre 200 ou 300 balles dans une paire de baskets. Et il y a des gens qui vont...
Oui.
Voilà. Et c'est beaucoup plus vrai. C'est vrai que toutes les enseignes traditionnelles de la restauration sont en train de se revisiter. Là, on a eu Hippopotamus, Léon de Bruxelles, c'est pareil, ils sont en train de revoir complètement.
C'est changement d'époque, hein, c'est très 90 quand même. Hein.
Mais juste une question sur le retail et sur les boutiques de centre-ville. Est-ce que vous avez l'impression, Marc Hadèche, qu'il n'y a que finalement l'alimentaire qui fonctionne, que finalement les fringues, ça ne se vend plus dans des boutiques physiques, c'est fini ça?
Ah non, ça se vend en boutique physique. Ça se vend en boutique physique, mais encore une fois, c'est une question de gamme. Vous avez, je parlais tout à l'heure du succès de Kiabi, du succès de Gémeaux, qui ont des positionnements prix extrêmement clairs. Malgré la hausse des matières premières, ils arrivent à maintenir leur prix. Ils se battent. Hein. Leurs boutiques sont pleines. C'est pas un souci. Maintenant, c'est pas uniquement en France. On revient de New York où il y avait le grand raout annuel du monde du retail. Dans Manhattan, on a perdu 730 magasins en net. Vous avez à Soho des magasins qui n'ouvrent plus qu'entre 11h et 17h. Ça s'est vidé. Et vous avez quelques quartiers à Brooklyn où là, on rouvre des magasins parce que les centres se sont déportés.
C'est le télétravail, ça.
C'est le télétravail, c'est les grands immeubles de bureaux de Manhattan qui sont toujours vides parce que les gens sont en télétravail. Donc on a exactement ce même souci en France. Vous rajoutez à ça des difficultés pour stationner. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on va arrêter d'acheter des vêtements. Ouais. On va acheter autrement. On va acheter d'autres vêtements. Et l'exemple du jambon beurre d'Emmanuel, c'est le même. C'est-à-dire qu'on va acheter des produits pas chers pour son quotidien et se faire plaisir de temps en temps avec une marque beaucoup plus chère.
On va dire un mot du luxe aussi avec Kering qui décide de reprendre la main sur ses parfums et ses cosmétiques. Peut-être de racheter ses licences qui sont notamment détenues par Coty. On va écouter ce que le récit de Pauline Tadevin sur ce secteur.
Kering se renforce sur un segment qui devient de plus en plus stratégique. Le marché, estimé à 228 milliards d'euros par L'Oréal il y a deux ans, est en pleine croissance partout dans le monde, notamment en Asie. Kering Beauté va chapeauter Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Killeen. Gucci et Saint Laurent ont déjà leurs parfums et cosmétiques, mais ils sont pour l'instant en tout cas, détenu sous licence par Coty et par L'Oréal. Avec ce nouveau pôle, le groupe de François-Henri Pinault se dit convaincu de pouvoir créer davantage de valeur pour ses maisons. Il place à sa tête une experte de ce secteur très pointu, Raffaella Cornaggia, plus de 25 ans dans l'univers de la beauté. Elle est passée par L'Oréal, Chanel, MAC, Estée Lauder et Tom Ford Beauty. Basée à Paris, elle intègre le comité exécutif du groupe, signe du caractère hautement stratégique de cette activité qui peut permettre aux maisons de luxe d'élargir leur palette de clients tout en restant dans leurs codes et leurs univers.
Mike Adjadj.
Mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Kering, c'est une belle maison. C'est une maison française. Donc, le constat, c'est qu'ils trouvent qu'avec leur partenaire sous-traitant en licence, ça ne va pas assez vite.
C'est ça.
Ils veulent reprendre la main.
Pinault avait dit, pas terrible, les ventes de Gucci en parfum.
Oui, hein. Oui. Et que ce soit avec Coty, avec L'Oréal, avec Interparfum, en plus c'est assez éclaté. Ils vont reprendre la main. Ils n'ont pas encore le savoir-faire, mais enfin, ils viennent quand même d'embaucher quelqu'un qui vient de chez Estée Lauder et puis ils savent investir, ils savent mettre les moyens. Je pense que c'est une belle nouvelle. C'est un secteur qui va bien. On reste dans le luxe et on reste dans le parfum au niveau luxe. Il y a des choses à faire pour aller plus vite, pour innover. Oui, à mon avis, c'est à suivre.
Pour vous, c'est une bonne nouvelle. Autre nouvelle qui est tombée dans la nuit, c'est Virginie Morgon, clap de fin à Eurazeo. Elle a été débarquée. Antoine Larigauderie, vous êtes avec nous depuis Euronext. Bon, c'est allé assez vite ce week-end. Ça, c'était un moment un peu difficile.
Ben, c'est le dénouement en fait d'une crise qui couve depuis 2018 hein, quasiment, parce qu'il faut resituer les choses. 2017, le clan Decaux reprend les parts du Crédit Agricole dans Eurazeo. Il y en a pour 16% des actions, 25% des droits de vote. 2018, il y a Virginie Morgon qui débarque à la présidence et qui insuffle un souffle nouveau, une volonté de s'ouvrir vers la high-tech, vers le financement des start-up. On l'appelait la banquière des start-up. Une stratégie qui était tout à fait soutenu par le management de l'époque, même si au bout d'un moment, certains actionnaires ont commencé à regarder le cours de bourse d'Eurazeo qui sous-performait largement celui du SBF 120, mais il faut bien dire que ce genre de financement, ce genre de stratégie, elle est payante qu'à très très long terme et c'est des paris qui confinent au capital risque. Donc il y avait du mécontentement, mais à l'époque il y avait un homme qui tenait les rênes et qui vraiment tenait la baraque, c'était Michel David Veil. Malheureusement, il est décédé l'été dernier et d'un seul coup, les digues se sont rompues et les Decaux, véritablement, ont commencé à monter en puissance auprès des autres actionnaires d'Eurazeo pour essayer de convaincre de changer la stratégie et d'obtenir le départ de Virginie Morgon. Donc, c'est désormais chose faite.
Merci,
est-ce que c'est pas aussi
Antoine.
Le symbole de la reprise en main du capitalisme français par les grandes familles? C'est peut-être une question à se poser aussi.
Jean-Philippe Cartier?
Non, juste Virginie Morgon, plus jeune associée gérante chez Lazard à 32 ans, femme brillante, vous le disiez, passée de 7 milliards en 2018
à plus de 30 milliards de fonds.
Il m'arrive de croiser Jean-Charles Decaux, qui est un homme extrêmement brillant et avisé. Je pense que c'est le fait de reprendre en main peut-être aussi une affaire dans laquelle ils ont 18% et près d'un quart des droits de vote. Et Virginie Morgon, c'était peut-être pas de leur équipe, entre guillemets. Donc je pense que c'est aussi basique que ça. Je pense que depuis le décès du fondateur, je pense que Jean-Charles Decaux avait peut-être pas l'impression d'avoir assez d'impact sur une affaire dans laquelle il tient un quart. Après, vous n'avez peut-être pas échappé, mais il y a une société qui a fait une belle opération qui s'appelle 1-2-3-AM cette semaine.
Quel
j'ai le plaisir de participer. Et nous, ça gère 1,5 milliard, nous sommes tout à fait prêts. Écoutez Virginie Morgon, si elle veut nous aider, passer d'1,5 milliard à 30 milliards d'euros d'assets. On lui fera un petit LinkedIn avec grand plaisir.
On lui fera SMS, elle a déjà une offre de job.
J'imagine.
Marc Adage, qu'est-ce que ça vous inspire?
petite crainte quand même, parce que ce qu'on entend là depuis hier soir, c'est une possibilité de retrait vers la tech. Or, Eurazeo a été très présent sur la tech et sur les retail tech qui nous intéressent plus particulièrement. On a en France des fleurons en matière de technologie pour le commerce, de retail tech. Eurazeo a beaucoup participé. J'aimerais pas que ça s'arrête, ce serait dommage.
Merci à tous les trois d'avoir été nos deux débatteurs.